Alors bonjour à tous, et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de vous retrouver après ces moments un peu de trêve. Moi j'ai beaucoup profité de ces vacances, il y en a peut-être un peu moins qui sont allés au chaud, nous on était bien au froid ici, hein. Enfin j'espère. Et donc je suis heureux de vous retrouver ce matin et pour ce premier culte de cette nouvelle année. Et en effet, pour commencer, moi je vais vous faire part de ma prière pour cette nouvelle année de grâce, et que cette nouvelle année, finalement, elle soit pour nous encore l'occasion de progression dans notre connaissance de Dieu et de grandir aussi dans notre relation individuelle avec notre Seigneur. Alors oui, on a fini cette année 2013, où vraiment il nous a été souvent rappelé que notre salut est en marche, que ce message de l'Évangile que nous avons accepté un jour a entamé un processus de vie nouvelle et qui met en œuvre aussi la sanctification et le renouvellement de notre intelligence. Je ne sais pas si vous avez retenu ça de l'année dernière, moi c'est ce qui m'a frappé dans le travail vraiment que le Seigneur en tous les cas a exercé en moi. Et donc du moment où on a reconnu en Christ notre Sauveur, nous acceptons aussi que Dieu prenne la direction de nos vies. Et cela, bien sûr, dans le but de mettre en pratique cette parole. Alors voilà pourquoi on peut commencer cette nouvelle année 2014. C'est une nouvelle année de grâce, car Dieu veut encore nous faire progresser dans notre relation avec lui, nous faire découvrir des nouvelles facettes de sa bonté que peut-être on n'a jamais envisagées jusqu'à maintenant. Alors évidemment, on ne sait pas ce que sera cette année, on ne sait pas ce qui va se passer, mais au-delà vraiment de notre vie quotidienne, avec toutes ses joies et ses peines, il y a toutes les promesses que Dieu a engagées pour notre vie éternelle, qui nous dépassent peut-être, mais qui sont bel et bien une réalité. Et ce matin, avec les anciens, on a jugé utile de parler des promesses, encore, puisqu'on est dans cette série, et d'insister sur les bontés et fidélités, la bonté et les fidélités de Dieu. Alors, comme c'est un vaste sujet, je vais prendre qu'une partie, et je vais m'attarder vraiment sur ces bénédictions et ces bontés au niveau spirituel, dans notre vie spirituelle, parce qu'on sait que les bontés matérielles, elles sont aussi bien présentes dans nos vies. Alors, un premier passage pour insister un peu sur cette caractère de cette bonté, cette fidélité, c'est 2 Pierre 3, verset 9, qui nous parle de ces promesses qui vont s'accomplir et de la patience de notre Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et dans la continuité de notre série sur les promesses, donc il y a ce message de Pierre qui résume très bien le caractère de cette bonté et de cette fidélité. Ce passage rappelle que Dieu est fidèle. Il ne tarde pas. Il ne nous a pas oubliés, bien sûr. Et il n'a pas oublié non plus les promesses qu'il a faites. Et ça, peut-être, ça peut nous arriver de le penser dans des moments, des fois, difficiles. Bien sûr, nous savons tous qu'après viendra le jugement. Et là, un verset ce matin que nous a dû Greg a fait écho par rapport à cette bénédiction et ses bontés, c'est que Dieu, on le verra après par la suite, Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour nous sauver. Et c'est le message de cette bonté que l'on verra un peu plus loin. Et donc la patience dont fait preuve notre Sauveur, tout cela c'est la manifestation simple de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ainsi dans la Bible, la bonté et la fidélité de Dieu sont bien souvent associées. Un peu plus loin au verset 15 de ce même chapitre, Pierre nous demande de croire que la patience de notre Seigneur est notre salut. Alors il parle bien sûr de notre salut, qui en nous en tous les cas qui avons cru, qui est en marche, et il veut encore qu'on progresse dans ce salut, il veut encore que on aille à cette perfection du salut, ici-bas, dans cette vie. Mais il s'adresse aussi, bien sûr, à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur. Et cette patience aussi est à l'œuvre pour eux dans leur vie, pour que cette bonté les touche et qu'ils puissent se tourner vers lui et accepter comme leur sauveur. Alors la bonté de Dieu, bien sûr, est pleinement manifestée dans notre salut et au-delà de sa patience, avant qu'il vienne juger le monde. Oui, nous sommes dans un temps où la bonté de Dieu n'a jamais été autant grande que maintenant. C'est évident qu'on ne peut pas ignorer, c'est que, oui, depuis que le péché est entré dans le monde, ce péché n'a cessé d'augmenter. Tout ce que Dieu a en horreur s'est accumulé au fil des années, au fil de génération en génération, et on peut le constater, aucun progrès n'a été fait dans ce domaine. Bien au contraire. Alors Dieu, d'après sa justice, ben lui serait en droit de mettre un terme à tout cela en mettant en route le processus de jugement final. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il a été fait. Jésus a envoyé pour sauver et pas pour juger. Pourtant, malgré tout ce mal que les hommes semblent faire impunément, donc, et qui les condamne, notre Seigneur, dans sa grande bonté, veut leur salut. Et qu'ils se repentent pour qu'ils louent à leur tour la bonté et la fidélité de Dieu. Évidemment, d'autres passages, le psaume 145, verset 9 nous dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Et la conséquence directe de la bonté de Dieu est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà quel est l'objectif de notre Seigneur. Et si donc au début de cette nouvelle année, nous nous interrogeons sur ce que cette année va être, et pas seulement pour nos vies propres, mais aussi pour notre Église, ben, il est intéressant de se rappeler comment se manifeste cette promesse de bonté et de fidélité de Dieu. Donc le premier point à souligner est que la bonté et la fidélité de Dieu sont des caractères de Dieu. Et d'après Jésus lui-même, la bonté n'est le caractère que de Dieu seul. C'est dans Marc 10, verset 18, Jésus nous dit, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors bien sûr, nous savons que Jésus est Dieu, et par conséquent que la bonté de Dieu le caractérisait aussi. Mais Jésus, dans son souci de révéler vraiment tout à nouveau le Père, ne fait que rappeler d'autres versets qui proclament ses caractères. Et le premier passage que je vous propose, où nous voyons la bonté de Dieu manifestée par Dieu lui-même, c'est lorsque Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et la réponse est surprenante. On va la lire, c'est Exode 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Alors, ce qui est surprenant vraiment dans cet épisode, c'est que Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Et Dieu, au lieu de lui montrer selon son souhait, parce qu'il répond aux prières, Dieu, on le sait, au lieu de lui faire voir sa gloire, il lui dévoile sa bonté. Donc ça veut dire que parmi tous les attributs importants que Dieu possède, celui qu'il veut faire découvrir en priorité de sa personne à Moïse, et donc par conséquent à toute l'humanité, c'est sa bonté. Bien sûr, nous ne pouvons pas voir encore la face de Dieu, sinon nous serions réduits à néant. Mais comme Moïse, nous pouvons voir et connaître Dieu grâce à sa bonté. Et cette bonté qu'il fait passer jour après jour devant nous. C'est ce que Dieu veut. Tout en proclamant qu'il est l'Éternel, il se laisse voir aux hommes au moyen de sa bonté. Alors cela explique vraiment beaucoup de choses dans la parole. Et en premier lieu, comme on l'a rappelé ce matin encore, l'envoi de son Fils pour nous sauver, pour payer le prix. Et donc maintenant, nous, bien mieux peut-être que Moïse, Emmanuel, Dieu avec nous, nous a révélé le Père. Et avec lui, tout le cortège de bonté qui l'accompagne. Ses grâces qu'il fait passer continuellement devant nous. Donc dans cet épisode où la proximité et la sainteté de Dieu n'ont rarement été égalées, c'est l'Éternel lui-même qui se présente à Moïse en proclamant qu'il est ce Dieu bon et fidèle. Exode 34, verset 6, donc à la suite de ce passage, l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel !» Donc c'est Dieu qui proclame ça, « Dieu miséricordieux et compatissant, lent en la colère, riche en bonté et en fidélité. » Voilà donc comment nous sommes appelés à considérer notre Dieu, non pas comme nous pourrions en avoir le réflexe, en voulant voir sa gloire qui est inaccessible et inflexible, mais plutôt en côtoyant sa bonté pleine de grâce. C'est comme cela que Moïse a rencontré Dieu. Et s'il est dit que Moïse était le plus doux des hommes, cette rencontre n'y est pas pour rien. Combien d'autres hommes de Dieu ont fait cette rencontre? Et la conséquence, ce sont des paroles de reconnaissance vraiment particulières concernant cette bonté et cette fidélité de Dieu. Par exemple, le psaume 100, verset 5 nous dit « L'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. » Tout ça devient une évidence pour ces hommes de Dieu. Il y a le psaume 85 aussi qui annonce que la bonté et la fidélité se rencontrent. Et plein d'autres passages, pas seulement dans les psaumes, qui répètent que l'Éternel est bon et que sa bienveillance durera toujours. Alors vraiment convaincu, fort de cette vérité, c'est-à-dire de ce que Dieu est, il est intéressant de voir maintenant ce que Dieu fait et comment il a manifesté cette bonté, cette fidélité. Et dès les débuts de la création et à la fin de chaque journée de la création, si vous vous souvenez en Genèse, Dieu fait le constat que ce qu'il avait fait était bon, voire très bon lorsqu'il a créé l'homme. Pourtant, cela n'a pas empêché la chute et ses conséquences vraiment dramatiques pour l'humanité. Nous savons aussi que la loi et les commandements de Dieu dictés à Moïse sont bons, et que l'alliance faite avec le peuple d'Israël avait pour objectif des bénédictions nombreuses. Pourtant, cela aussi, ça n'a pas empêché la désobéissance du peuple d'Israël et en finalité, le départ de Dieu de son tabernacle, l'habitation au milieu de ce peuple. Alors, on peut vraiment se poser cette question. Comment un Dieu si parfait, si bon, a-t-il pu créer un homme capable de faire le mal? Alors que, c'est dit, nous sommes faits à son image. Et avant cela, pourquoi a-t-il maintenu le diable dans son attitude rebelle et permis qu'il ait une influence négative sur le reste de la création? Donc ce sont bien sûr des questions qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais est-ce que ce n'est pas le moment de prendre du recul sur ces questions et de voir plutôt dans cette situation la bonté de Dieu passer devant nos yeux d'hommes? Oui, dès le premier jour de la création, Dieu sépare les ténèbres de la lumière pour faire le constat que cette dernière, la lumière, est bonne. Et donc depuis que le fruit de l'arbre défendu a été mangé, nous connaissons aussi que les ténèbres sont mauvaises. Alors cette volonté libre dont Dieu a pourvu ses créatures implique que les créatures de Dieu, qu'elles soient anges ou hommes, peuvent opter autant pour le bien que pour le mal. Mais la différence entre les deux, donc entre ces deux créatures, étant que pour les anges, la manifestation de la bonté de Dieu est relative, tandis que pour les hommes, la bonté de Dieu est manifestée pour tous ceux qui croient. C'est Hébreux 2, verset 16 qui nous dit « Assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la joie devant les anges, pour un seul pécheur qui se répand. Les anges de Dieu, n'ayant pas droit à l'erreur, sinon c'est le jugement, sans aucune possibilité de grâce, sont eux vraiment émerveillés de voir la bonté de Dieu se manifester sur nous en tant qu'hommes. Et c'est pour ça que les anges désirent plonger les regards dans l'Évangile. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça. Et il y a peut-être un paradoxe dans cette situation. À l'image de Moïse, les hommes souhaitent voir la gloire de Dieu, alors qu'il leur est donné de voir sa bonté. Et les anges, eux, désirent voir les manifestations de la bonté de Dieu, alors qu'ils voient, eux, la gloire de Dieu. Alors je dis à tous, un peu de patience, nous serons tous comblés bientôt. Pour revenir à ce qui nous est donné de connaître, à nous, c'est-à-dire à la bonté, nous pouvons justement la connaître parce qu'il y a eu la chute et à sa suite, il y a eu la peur du jugement. Alors je ne veux surtout pas légitimer la chute, mais quand même, sans elle, les bontés de Dieu n'auraient pas cette importance particulière pour la postérité d'Abraham, c'est-à-dire pour les véritables croyants pour la foi. Et vraiment, quand je lève les yeux, je ne peux que m'émerveiller et m'incliner vraiment devant cette bonté. Alors que je suis perdu, condamné à cause de mon péché, je n'ai finalement besoin que de voir la bonté de Dieu passer devant moi, pour me repentir et reprendre espoir, et puis pour vivre. Et cette bonté, on l'a rappelé ce matin, elle s'est incarnée dans la personne de Jésus, qui par sa mort nous a ouvert l'accès à la grâce de Dieu. Nous pensons quelquefois que c'est la peur du jugement qui nous pousse à la repentance. Mais voilà ce que dit Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Jésus a dit: je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Combien de fois il nous arrive de porter un jugement au lieu d'apporter de la bonté? Et c'est ce message, ce matin et pour cette année, que le Seigneur veut nous faire entendre. Alors bien sûr, le jugement est une réalité, mais le conseil de Paul ici est de ne pas mépriser la bonté de Dieu. Car c'est elle surtout qui nous émerveille et qui incline notre volonté à se repentir. Qu'en est-il alors si nous refusons cette bonté? C'est-à-dire que nous voyons principalement le jugement au lieu de la grâce. Donc on méprise cette bonté et nous ne répondons pas par la repentance et la confiance en Dieu. Donc c'est un mécanisme que je connais très bien. C'est-à-dire que je me justifie, j'ai la loi, je dois faire ça, et je me plante, j'y arrive pas, mais jamais me vient l'idée que la bonté de Dieu passe devant moi et que je dois au contraire me mettre à genoux et demander pardon pour passer à une étape supérieure. Mais je préfère me battre tout seul. Et forcément, en se battant tout seul, on se prive de toutes les bénédictions qui sont liées à cette bonté divine. Ce passage bat en brèche tous les enseignements religieux d'un Dieu, je dirais, père fouettard. Ces messages-là qui ont emprunt notre culture judéo-chrétienne et qui privilégient finalement le jugement au lieu de la bonté. Alors justement, attention de ne pas mépriser la bonté de Dieu dans nos analyses et nos jugements. Ces jugements qui sont quelquefois hâtifs sur des personnes ou des situations que l'on vit plus couramment. Mais au contraire, laissons passer la bonté devant nos yeux. Bien sûr, ce n'est pas le prétexte pour ne pas dénoncer le péché, mais au contraire, c'est pour que le péché soit révélé par la bonté de Dieu qui, elle, vraiment, nous pousse à la repentance. Si la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, les proverbes disent que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, Ça nous aide justement à éviter les paroles de condamnation et d'avoir une langue trop acerbe. C'est ce que ce passage de l'Épître aux Romains nous enseigne, de ne pas condamner trop vite. Et avec un autre passage qui va encore un peu plus loin, c'est au chapitre 11, verset 22, donc de l'Épître aux Romains toujours. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Donc sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi, si tu devais ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Alors je rejoins un peu le message de Philippe. Mais justement, il faut replacer peut-être ce verset dans son contexte, car le chapitre 11 des Romains est le chapitre où Paul démontre que Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël, car Dieu, dans sa grande bonté, tient toujours des grâces en réserve pour son peuple. Certes, ce peuple a dans un premier temps méprisé les bontés de Dieu et il s'est endurci. Alors Dieu, c'est dit dans ce chapitre, leur a donné un esprit d'assoupissement. Et dans ce chapitre, toujours, il y a un avertissement qui est donné aux non-juifs qui accompagne vraiment cet exemple malheureux. Paul rappelle que la chute de ce peuple est la richesse du monde. Et nous voyons là encore un exemple que la chute est une nouvelle fois l'occasion pour Dieu de manifester toute sa bonté. Et là, cette fois, la grâce, elle est en faveur des païens. C'est dans ce chapitre qu'il est sujet de l'olivier sauvage, qui est greffé sur l'olivier franc, à la place des branches qui, elles, ont été retranchées. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des conséquences douloureuses lorsque l'on méprise les bontés de Dieu. C'est le cas actuel pour Israël. Israël a été retranché, mais comme si Dieu ne pouvait pas empêcher sa bonté de se manifester, Dieu finalement n'a pas d'autre choix que de faire passer sa bonté devant les païens pour les amener eux aussi à la repentance. Alors oui, Dieu est sévère envers ceux qui refusent de répondre à la bonté par la repentance et la foi, car tout simplement, ils se privent des bénédictions qu'il a en réserve. Voilà pourquoi nous devons considérer cette bonté envers nous tout en demeurant fermes dans cette bonté. Et cela rejoint voilà ce que nous a dit Philippe au sujet du salut qui nous est acquis à jamais en Christ. Néanmoins, ce salut n'est pas à négliger. Il y a un risque de passer à côté de toutes les richesses qu'il contient. Si nous refusons la bonté de Dieu et sa grâce qui en fait partie, je vais citer des passages parce qu'il y a des conséquences. Et, par exemple, d'après Paul à Timothée, c'est dans les derniers temps que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, tout ce passage. Mais abandonner la foi. C'est-à-dire, abandonner la foi, c'est garder confiance en nous-mêmes et garder notre confiance en nous et en notre capacité de faire le bien ou d'arriver à plaire à Dieu. Et on voit que dans les derniers temps, il y a ce risque d'abandonner la foi. C'est-à-dire à ne plus voir, à ne plus discerner, comme Paul le dit dans d'autres passages, cette bonté et pour voir autre chose, le jugement, la condamnation. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit attention de ne pas outrager l'esprit de la grâce en nous mettant sous un jugement de la loi. Et cela est aussi dit aux Galates, et aux Galates ça va encore plus loin, il est dit dans ce cas, nous pouvons être déchus de la grâce. Alors nous ne savons pas si cette nouvelle année fait partie des derniers temps, mais est-ce que nous pouvons être sûrs? Et ça c'est Jérémie, un des prophètes, vraiment qui a été le plus éprouvé parmi les prophètes, qui nous le dit, Lamentations 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors c'est ce qui nous attend durant cette année. Continuons à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en considérant vraiment avec émerveillement les bontés de Dieu qui passent devant nous chaque matin. Et en suivant l'exemple de Dieu, parce que ouais, j'aime bien cette image qu'on est fait à l'image de Dieu, mais essayons de copier un peu son attitude. Comme avec Moïse, il a fait passer sa bonté au lieu de faire passer sa gloire devant Moïse. Ben, à nous aussi, au lieu de faire passer notre propre gloire devant les uns les autres, ça peut nous arriver, hein, faisons passer notre bonté. Faisons passer notre bonté les uns devant les autres. Et ça, c'est aussi l'œuvre que fait le Consolateur. On se sent peut-être dans la difficulté à mener ça. Être bon, c'est pas évident. Je ne vous cache pas que quand je prépare ce message, je suis le premier interpellé, et quand je vois ma bonté relative, je suis interpellé. Mais n'empêche que ça, c'est le Saint-Esprit qui nous travaille. C'est lui qui fait en nous cette démarche dans nos cœurs pour nous toucher, pour nous titiller sur ces domaines-là. Et c'est vrai qu'on a ce réflexe humain de toujours aller peut-être à la condamnation, au jugement, à dire, à voir ce qui ne va pas et comment corriger. Mais c'est justement cette œuvre de renouvellement de notre intelligence, de transformation que le Consolateur fait dans notre vie pour nous libérer et pour nous faire demeurer dans la bonté et ça, dans sa bonté et ça suivant ses promesses. Alors voilà, je vous laisse ce message. Moi, il m'a parlé. Pour cette année, je crois qu'on a un gros programme. Il y en a encore plein d'autres, bien sûr. Mais voilà, je vous propose de remettre vraiment cette année encore entre les mains de notre Seigneur pour que, ben, il touche nos cœurs, pour que cette bonté, ben, elle puisse aussi jaillir, cette bonté de Dieu qu'il a mis en nous. Il nous nourrit de cette bonté, ben, que nous puissions aussi la faire déverser sur d'autres. Et puis peut-être une autre fois, on pourra parler de ces bontés plus matérielles, plus pratiques que nous avons. Mais en tous les cas, ces bontés-là spirituelles, c'est une richesse, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter et qu'on doit encore durant cette année toucher du doigt par la présence et la manifestation du Saint-Esprit en nous. Oui, Père, nous voulons nous remettre entre tes mains pour cette année et merci pour cette œuvre que tu as accomplie, Seigneur, en venant ici-bas. Et toi aussi, voilà, comme tu nous l'as rappelé encore ce matin, tu as fait passer toute la bonté de Dieu devant nos yeux. Et c'est vrai que nous sommes émerveillés devant cette croix, nous sommes émerveillés devant cette œuvre si grande, si parfaite. Et nous voulons, à notre tour, être nourris, être remplis de cette bonté. Nous voulons aussi, ben, peut-être, parmi ceux qui sont dans le trou, comme l'était Moïse, au fond de son rocher, nous voulons faire passer aussi notre bonté devant les yeux, cette bonté que toi tu as mise. Et nous voulons te prier que tu nous y aides. Tu vois, c'est des fois quelque chose de... Nous avons de la difficulté à partager, à vouloir donner cette bonté. Nous préférons des fois nos réflexes humains de jugement et de condamnation. Mais veuille continuer à faire cette œuvre dans nos vies, à cette œuvre de nos renouvellements, à cette œuvre de nous considérer vraiment toujours plus les uns supérieurs à nous-mêmes. Et continuer à nous faire passer cette bonté. Merci pour ce programme, ta fidélité aussi à ton Église. Et nous ne savons pas si nous sommes dans les temps de la fin, mais en tous les cas, nous voulons garder la foi. Et nous voulons encore te prier pour cette année, que nous puissions garder cette foi, que nous ne passions pas à côté de ces promesses et pour nous éloigner et chercher notre propre justification. Aide-nous, Père, encore, et on veut te prier que, vraiment pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, demain et tous les jours de cette année, tu sois en bénédiction pour les plus petits comme les plus grands. Sois loué, Père. Amen.
Merci Pierre. Moi je suis réjoui de voir Pierre réjoui. C'est une bonté de Dieu aussi. Merci en tout cas pour ce message. Avant de partager des annonces, enfin ça fait partie aussi des annonces, j'aimerais juste dire que on a Brian qui est là au fond. Hélène n'est pas là, elle est à la maison. Après quelques jours, quelques semaines chez la sœur d'Hélène, elle a commencé vraiment à se retaper, à remonter physiquement. Mais Brian et Hélène vont nous quitter cette semaine pour sept semaines, c'est compliqué à dire, hein. Voilà, vont donc descendre dans le midi chez Laurent, leur fils, donc pour passer l'hiver là-bas et éviter de glisser sur les pentes de Thoiry, parce que c'est plus de leur âge. Voilà, en gros. Donc on veut vraiment, d'abord, penser à vous très très fort, vous souhaitez un bon temps là-bas aussi. Je vais vous laisser un passage, et puis après je vous propose que ceux qui le veulent, on ait 2-3 minutes de prière, on peut prier pour envoyer Brian et Hélène là-bas en les remettant à Dieu. Et Brian, je vais vous laisser ce verset, ce psaume que tu connais. C'est pas un verset, c'est un demi-psaume en fait. Mais il est court, hein, c'est pas le 119, rassure-toi. Il est plus court. C'est dans le psaume 121. L'Éternel, et c'est pour toi et pour Hélène, pour ce temps. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et ce verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est ce qu'on veut partager avec vous. Et je vous invite, si deux ou trois veulent prier pour remettre ce temps où Brian et Hélène nous manqueront, de le faire librement maintenant. Seigneur, nous voulons te demander ensemble de garder notre frère, notre sœur, de les bénir abondamment, Seigneur. Ils connaissent ta fidélité depuis longtemps. Et nous voulons ce matin réclamer que tu leur montres tous les jours ta bonté avec abondance. Et nous voulons aussi te dire qu'ils emportent aussi notre amour avec eux pour ce temps. Nous te prions aussi pour cet appartement qui ne se vend pas, Seigneur. Et nous te demandons d'être toi le promoteur de cette chose-là et de tout remettre aussi, de tout décider, Seigneur. Bénis-les abondamment, Seigneur. Garde-les, nous te les remettons, Seigneur. Et nous savons qu'ils sont aussi entre tes bonnes mains. Amen. Bon voyage, Brian. Il y a une vieille formule, c'est pas qu'on disait autrefois, mais qui dit Dieu voulant, on se retrouvera dans ces 8 semaines, peut-être, s'il n'est pas revenu avant, comme tu le dis, Brian. Merci. En tout cas, bon séjour. Juste, je vais passer maintenant aux annonces concernant la semaine. Demain soir, on reprend le travail, conseil d'anciens. 19h30, prenez le temps pour prier. On est un peu reposé, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer à prier, hein. Continuez à prier pour les anciens et pour les travaux en cours. Mercredi, et je vous invite vivement mercredi soir à venir ici à 20h, c'est la semaine de prière de l'Alliance évangélique. On a une réunion de prière, une seule réunion de prière, toutes les églises ensemble, c'est ici à 20h. Mercredi soir, ça durera de 20h à 21h30 à peu près, maximum, et on priera pour tous les projets et toutes les activités que les églises font du Pagex ont fait en commun ou font en commun. Des choses très pratiques, donc avec des petits temps de prière, et vous verrez, ça sera intéressant parce que vous découvrirez peut-être plusieurs choses, en tout cas qui se font, ou des projets ou des idées qui sont intéressantes. Donc c'est à 20h, mercredi ici. Jeudi soir, chorale. Aiguisez vos voix, répétez, apprenez, si vous n'avez pas encore appris. En tout cas, on se réjouit de se retrouver jeudi pour la chorale ici. Samedi, groupe d'ados, 14h30. Ce soir, le groupe de jeunes. Et puis dimanche, on aura un culte un petit peu spécial. Ce sera Eric Baumann de Porte Ouverte qui viendra nous apporter le message ce dimanche. Et il nous parlera plus particulièrement de l'Église persécutée. Donc on va encore se réjouir aussi de partager ce temps avec Eric. Voilà. Maintenant, on arrive à des sujets de prière très précis. Et il y a deux parties. Hein. On mélange un petit peu la prière souvent. Il y a des sujets de prière vraiment et des sujets de reconnaissance pour des réponses aux prières. Alors, dans les sujets de prière, continuons à prier pour Jean-Michel, pour Anna, pour cette famille, pour toute cette famille. C'est important de prier pour que Dieu les guide. Vraiment, je pense que c'est ça le sens de notre prière. Prier pour que Dieu les garde et pour que Dieu les guide et sache le travail qu'il faut faire, là où ils sont et comment ils sont confiés. Ça, c'est important. Et puis, deux nouveaux sujets de prière que je vais vous donner, qui sont importants. Lina, la petite fille de Sandy et Elodie, a été hospitalisée. Elle est restée 3 ou 4 jours sans manger. Il y a un problème soit de gastro, soit plus important de déshydratation aussi. Elle est encore à l'hôpital. On veut vraiment prier pour elle. Pensez-y. Et puis, Neil aussi est à l'hôpital pour un problème de gastro aussi. Donc, toujours déshydratation et ce genre de problème. C'est toujours un petit peu délicat chez les bébés ou chez les petits-enfants. Donc, on veut vraiment prier pour eux. Voilà. Ça, c'est des sujets d'intercession. Puis, des sujets de reconnaissance. D'abord pour Thiago. On a beaucoup prié pour Thiago. Vous pourriez mieux le dire, peut-être. Je ne sais pas.
Il va très bien.
Ben viens là, Lydia, viens là.
Non, je n'aime pas.
Mais ça ne fait rien, parce qu'il faut que tout le monde entende.
Il va pleurer.
Ça fait rien, tu pleureras.
Tu vois, je pleure déjà.
Non, on est reconnaissant, parce que Dieu, il fait des miracles. Des fois, on a du mal à dire ces mots, parce qu'on dit, c'est ce que Dieu a fait là, dans la Bible. Mais Dieu, il fait encore, il va faire encore des miracles. Il a fait un miracle parce qu'il a sauvé mon petit frère de la mort. Je n'avais pas de foi. J'ai vu mon frère coucher dans un lit. Je ne savais pas comment prier. Je prie, Seigneur, pour que tu le sauves. Mais si tu le sauves, peut-être qu'il va être comme un végétal, je ne sais pas, c'était dans la tête, hein. Il a cassé le crâne. Je ne savais pas comment prier. Et pourtant, Dieu, il a rappelé des gens de partout, de la France, du Brésil, Paraguay, Argentine, États-Unis, de Costa Rica, des gens qui ont prié pour que Dieu fasse un miracle. Et Dieu a fait un miracle. Au bout d'une semaine, dans les urgences, il s'est réveillé. Il avait toute sa tête. Il a fait des blagues. Il a même parlé en français à Pierrick. Et après 2 semaines de l'accident, il s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Il a commencé à manger. Il avait trop envie de manger la pizza. Il a mangé de la pizza. Et aujourd'hui, il marche. Il a toute sa tête. Il a juste la tête un peu déformée, mais déjà, il n'était pas très bien. Mais Dieu, Dieu a fait un miracle dans la vie de mon frère. Et il s'est révélé dans la vie de tout ce qu'on peut voir ça. Et je rends gloire à Dieu, parce qu'il est bon. Oui, il est bon. Et des fois, on dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi mon petit frère, mes parents, c'est des gens qui sont fidèles envers Dieu? Et là, on voit que Dieu aussi, c'est ça, la pluie de Dieu, il envoie la pluie pour les bons, pour les méchants. Et des fois, il nous fait passer par des épreuves comme ça, pour qu'on voit sa gloire dans la vie de ses enfants. Et si je pleure là, ce n'est pas de tristesse, mais c'est de joie, parce que Dieu, il est bon. Et merci pour les prières, parce que la prière, elle est efficace.
Merci, Lydia. Encore trois sujets de reconnaissance, vraiment, pour les prières. Rachel va bien, ils ont trouvé ce qu'elle avait. Une grande réponse aux prières. Je n'ai pas plus de détails, mais Rachel va bien, les médecins ont trouvé. Une réponse encore aux prières, appelez le miracle si vous voulez, mettez le nom qu'il vous faut dessus. On a discuté hier soir longuement avec David de miracle, du mot miracle. Voilà, mais c'est une réponse aux prières qu'il faut voir. Une réponse aux prières, c'est Mariano qui est là aussi. Voilà, assis là, avec la forme, comme d'habitude là. Je vous rappelle quand même qu'il a juste 93 ans, mais enfin, voilà. Voilà, qui est opéré du cœur et qui va encore être opéré du cœur. Donc on veut encore prier pour le, pour cet. Alors bien sûr, à 83 ans, on ne grimpe pas contre les murs. Il ne fait plus de vélo. Il ne fait plus de vélo. Alors pour aller se baigner dans la mer, nager dans la mer, c'est compliqué. 93 ans. Bon, on souhaite vraiment une bonne année, Mariano. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis le dernier sujet de reconnaissance, c'est Mike. Vous voyez ce qu'il est, Mike ? Voilà, c'est Mike qui se cache là-bas. Mike qui vient de finir sa cure à Hauteville, où il est rentré à reculons, et où il est ressorti en bénissant Dieu et en glorifiant Dieu. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup partagé avec Mike. On est allé faire une grande balade dans la montagne, ce qu'il n'aurait jamais pu faire avant. Et Mike est en attente ces jours-ci là, d'une post-cure. Donc on veut prier pour ça, pour que tout se donne avec les dates. Il est en attente d'un tas de réponses par rapport à la justice française, avec des gros points d'interrogation. Donc il faut le remettre entre les mains de Dieu. Mais je peux vous dire que lui, il a décidé de ne plus boire de toute sa vie, et il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. Alors les uns les autres, pensez-y. Quand vous l'inviterez, parce que vous allez l'inviter, parce qu'il a des choses à vous dire, mais pensez-y quand vous l'inviterez. Mais voilà, il faut qu'on le booste un petit peu. Et si vous étiez déjà allé chez Mike, vous reconnaîtriez plus son appartement. Il est clair, il sent bon. Et Mike m'a dit, je ne veux plus vivre dans le noir, je veux vivre dans la lumière. Voilà. Donc on veut vraiment se réjouir. C'est aussi une réponse aux prières. C'est moi qui vais pleurer bientôt. Voilà, est-ce que j'arrive au bout ? Moi, ça fait beaucoup de choses à penser, mais remettons tout ça entre les mains de Dieu. Et ça, c'est voir défiler sa bonté devant nous, simplement. On sait déjà qu'il est fidèle, mais ça, c'est voir défiler sa bonté devant nous. Voilà. J'ai rien oublié ? Sûrement, mais ça fait rien. On a encore le temps de penser. Venez mercredi, c'est important. Partagez ça avec les frères et sœurs aussi. Je vous invite à vous lever autrement. Et je vous lirai encore... En commençant ce verset que Pierre nous a donné au début, « L'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. » Et les plus âgés ici peuvent en témoigner, la génération de génération en génération. À la fin de l'épître de Pierre, la première épître, Pierre nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance, au siècle des siècles. Amen.